Les grandes voix d'Europe 1. Sébastien Guyot.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 pour ce débat des grandes voix en compagnie de Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Le deuxième thème aujourd'hui, celui qui était invité exceptionnel d'Europe 1 et de Michel Denisot en début de semaine, Édouard Philippe.
Je préfère ceux qui changent de parti pour rester fidèles à leurs idées que ceux qui changent d'idée pour rester fidèles à leur parti. Bah, tout est dit.
Édouard Philippe qui cite l'une de ses icônes, Churchill. Édouard Philippe, un homme qui a trahi la droite, selon les propres mots de Christian Jacob, le président des Républicains.
Parce que c'est sauvé en courant et en nous trahissant. Et la réalité, aujourd'hui, comme chef de gouvernement, on lui doit tout l'échec de la première partie du quinquennat d'Emmanuel Macron. Notre-Dame-des-Landes, celui qui a tout lâché aux voyous, aux casseurs, c'est Édouard Philippe. C'est aussi lui qui a été incapable de porter la réforme des retraites. 3 ans de parlotte pour être incapable, au bout du bout, de réformer. C'est aussi celui qui a fait que les dépenses publiques sous Emmanuel Macron ont augmenté plus vite que sous François Hollande. Et puis, c'est quand même celui qui nous a amené les gilets jaunes. Donc moi, Édouard Philippe nous expliquait que c'est le candidat de la droite, j'ai un peu de mal, parce qu'il est caution, ça.
Il fait peur à ce point, Édouard Philippe. C'est un candidat potentiel à droite, Catherine Ney.
Pas pour les, normalement, pas pour les prochaines présidentielles. C'est un homme qui est en réserve, qui a sûrement de l'ambition, qui a les moyens de son ambition, qui travaille, qui réfléchit, qui a écrit un livre et qui ne dit pas qu'il va être candidat, mais il ne dit pas qu'il... Voilà, tout peut arriver, il dit l'imprévisible.
Quand on écoute Christian Jacob, en tous les cas, il fait
mais
peur.
Mais pourquoi Christian Jacob dit ça? À qui parle-t-il? Là, il s'exprimait dans un live sur Facebook avec le nouveau président des jeunes LR, qui s'appelle Guilhem, je vais vous retrouver son nom, mais enfin bon.
C'est les jeunes LR.
C'est
oui.
Les jeunes LR, voilà, qui étaient soutenus d'ailleurs par Guilhem Carayon, voilà, qui était soutenu par François-Xavier Bellamy, Retailleau et d'autres et tout ça. Mais s'il fait ces remarques-là, qui sont quand même largement contestable, on peut revenir tous les attaques qu'il fait, c'est parce qu'il a peur. Il voit bien aujourd'hui que dans l'électorat de droite, eh bien, Édouard Philippe, il séduit. Il séduit beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, parce qu'il a une apparence de jeune et tout ça, mais surtout parce que chez LR, il est jeune, et c'est parce qu'à LR, ils sont orphelins d'un candidat. Oui. On va arriver en septembre, on ne sait pas si on fera des primaires, aucun candidat n'est vraiment crédible. Et donc, c'est la peur de voir ces jeunes aller vers...
Gérard Carrérou,
oui.
Michel Cotta et Charles Villeneuve.
Cette semaine, moi, je trouve qu'il y a deux phénomènes politiques qui s'additionnent ou qui se... En tout cas, qui font l'intérêt de la politique, voilà, et de la prochaine élection. Il y a ce que j'appellerais la petite musique. La petite musique Le Pen. Madame Le Pen peut gagner, etc. Tout ça, ça a commencé avec la grande étude de la Fondation Jean Jaurès. Peut-elle gagner, etc. Mais pas seulement. Dans l'opinion se répand cette idée. Ah, peut-être qu'elle peut gagner. On vous pose des questions ici ou là. Elle peut gagner, etc. Et dans cette même semaine où il y a cette interrogation, ce qui veut dire, en creux, ça veut dire si elle peut gagner parce que Macron ne serait pas forcément à la hauteur de gagner. Dans le même temps, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu s'installer sur la scène politique un homme tranquille, à travers un livre qu'il vient de publier, qui dit effectivement dans ses interviews des choses aimables, pas grand-chose intéressante au niveau de la politique aïrie, c'est-à-dire au niveau de « alors, je suis candidat, je ne suis pas candidat ».
Il se place au niveau des idées.
Il se place au niveau des idées, de son bilan, de ses lectures, etc. Mais le fait est qu'au bout de la semaine ou des 15 jours, il est installé, il ne dit rien, mais c'est le sphinx du Havre qui est là. Et quand on parlera de la campagne et qu'on dira qui va être candidat, on n'en sait rien. Les primaires ici, les primaires là ou pas, elles n'ont pas eu lieu. Mais il y a quand même quelqu'un qui est arrivé subrepticement, si j'ose dire, qui s'est installé fortement et donc qui a fait une première opération.
Oui, c'est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un que tout le monde va voir. C'est ça qui est intéressant, que tout le monde va voir, soit qu'il vienne du monde de Macron, et qu'il regrette de voir Édouard Philippe partir, ça existe. Mmh. Et même, effectivement, et c'est pour ça que Christian Jacob a réagi, et même du côté des Républicains, beaucoup de gens vont le voir. Donc c'est un peu, au fond, Nicolas Sarkozy a été longtemps le parrain de toute cette aura républicaine. Et là, on a l'impression qu'il y a une sorte de parrain qui ne dit pas son nom.
C'est le nouvel imam caché.
Qui même dit oui. Non, pas du tout, ça ne me concerne pas, je ne suis pas le parrain. mais qui existe quand même.
Alors, le parrain, le sphinx du Havre, l'imam caché, Charles Villeneuve.
Non, mais moi, je suis assez d'accord avec cette approche-là, parce que, si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce livre, qui est, sur le fond, est cruel, il est assez cruel, et surtout, c'est un livre, et c'est évidemment Édouard Philippe, qui ouvre une alternative tranquille. C'est un livre plein de fausses innocences. Je voyais Catherine Ney, Stabilo bosser en permanence un certain nombre de petites phrases. Et quand on décrypte ces petites phrases, on se dit finalement, il y a une sorte de déstabilisation tranquille. Et si les snipers macroniens et républicains, comme Christian Jacob, prennent leur flèche du Part dans leur carquois, c'est bien parce qu'ils sentent le danger qui approche. Maintenant, juste une remarque sur la trahison. Alors, moi, ça me fait rire d'entendre Christian Jacob sur la trahison, parce que l'histoire de la trahison de la droite, mais elle est remplie de trahison. Rappelons-nous, Chirac a trahi Giscard, Balladur a trahi Chirac, Sarkozy a quitté Chirac pour aller avec Balladur, Fillon a trahi Sarkozy. Les deux seuls qui n'ont pas trahi, ils sont restés sur le carreau, c'est Juppé et Séguin. Alors, la trahison...
Vive la trahison
mais non, mais... C'est l'éloge de la trahison.
Alors, vous parliez de stabilossé. Moi aussi, j'ai stabilossé quelques lignes. À la fin du livre, d'ailleurs, il marque signature. Catherine Ney, Michel Cotta, Jean-Pierre Elkabbach, Alain Duhamel et plein d'autres. J'imagine qu'il pensait à vous, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Non, adolescents, nous guettions ces grandes voix, ces grandes signatures. Plus tard, nous les connaîtrons. Pour beaucoup, nous les apprécierons. Ils en ont vu d'autres. Ils ont souvent en commun le sens de l'histoire et l'amour du mot juste. Et eux, que se disent-ils en nous voyant, en comparant avec les très grands qu'ils ont côtoyés ? Catherine Ney, Michel Cotta, vous êtes cité. Que dites-vous ?
Je me dis, merci de nous passé, citer, quoi. Que le temps a passé, que pour eux, old is beautiful.
Mais peut-être sur son avenir présidentiel.
Comment ?
Peut-être sur son avenir présidentiel.
Mais
c'est une manière très agréable de nous parler, mais que
non,
ça
mais moi,
ne
je pense qu'il en a
problèmes.
Un. Je pense qu'il en a un parce qu'il est jeune. Il gère très bien le Havre, pour ceux qui connaissent le Havre. Et manifestement, il est sorti avec une image d'homme extrêmement pédagogique, tranquille, serein et qui maîtrise très bien son affaire.
Il est en réserve. Il est en réserve de la République.
Oui,
mais vous savez, de la réserve au recours, il n'y a qu'un pas à franchir. Or, il y a eu la disparition politique. La disparition politique, je dis bien, en tant que faiseur de roi de Nicolas Sarkozy à droite.
Et ça, c'est. Et la nature a horreur du vide.
Je vous arrête là. Édouard Philippe n'est pas candidat, contrairement à Marine Le Pen, qui, elle, rêve d'Élysée en 2022. Et c'est une possibilité non négligeable, nous dit l'étude de la Fondation Jean Jaurès, dont parlait Gérard Carrérou il y a un instant. Et on va en parler tout de suite, après cette pause.
Les grandes voix d'Europe 1.
C'est déjà la dernière ligne droite de ces débats des grandes voix jusqu'à 11h en compagnie de Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Marine Le Pen à l'Élysée, un risque limité mais bien réel. C'est ce que dit une étude publiée cette semaine par la Fondation Jean Jaurès. Michel Cotta, c'est une possibilité non négligeable, comme il est écrit également dans cette étude.
Je pense que c'est une possibilité non négligeable pour plusieurs raisons. La première, on le voit cette semaine, tout ce qui alimente... La peur du terrorisme, la peur de l'immigration, elle le récupère immédiatement. Et on dit même, j'entendais hier des commentaires disant elle est à l'aise dans la défense, etc., dans la défense de la sécurité. Bon, deuxièmement, son personnage a tout de même changé depuis le fameux tête-à-tête présidentiel avec Emmanuel Macron. Alors, peut-être que beaucoup de gens la trouvent inférieure à son mouvement, si vous voulez, mais en tout cas, elle est là, elle est bien là, elle n'a pas fait beaucoup d'erreurs, elle ne va pas dans l'outrance, et donc elle existe. Et enfin, troisième point, il y a tout de même, on voit bien, le Front républicain qui s'est opposé à Marine Le Pen pendant des années est en train de se fissurer, et en plus, il y a entre les électeurs restés aux Républicains et une partie des électeurs du Front National, beaucoup, beaucoup, beaucoup de convergence.
Charles Villeneuve, oui. Michel Cotta disait, elle récupère, elle se nourrit de l'actualité. Et dans cette étude, il est écrit, c'est en faisant des concessions programmatiques au RN qu'on le fait monter.
Oui, moi, je trouve que les deux facteurs les plus importants ne sont pas là. Je trouve que le risque, est, ou en tout cas la possibilité de son élection est, est réelle, parce que le Front républicain, d'abord, ne marche plus. Ça, c'est important. Il n'y a plus de barrage au Rassemblement national. C'est vrai. Il n'y a plus de plafond de verre, notamment, aussi, pour Marine Le Pen. Elle est dans une zone entre 45 et 46%. Lorsqu'elle était scotchée à 30%, il n'y avait aucune possibilité.
Voir un sondage
là,
à 48%.
La victoire est difficile, mais elle n'est pas impossible. Et puis moi, je trouve que son accession au pouvoir est en grande partie conditionnée au niveau du rejet d'Emmanuel Macron, d'ailleurs selon la Fondation Jean Jaurès. Et là-dessus, c'est vrai.
La détestation du président de la République, Gérard Carrérou, c'est mis en avant.
Oui, bien sûr, évidemment, il y a la détestation du président de la République, mais il y a surtout, et ça j'appuie effectivement ce qu'a dit Michel et ce qu'a répété aussi Charles, c'est-à-dire, il y a plus, on a tous vécu, nous, pendant 40 ans, sur une France binaire. En gros, on était de gauche ou on était de droite. Et évidemment, quand on était de gauche, on ne votait pas pour les candidats de la droite et vice-versa. Aujourd'hui, on a des nouvelles générations qui sont... Il y a eu une explosion, effectivement, un début d'explosion en 2017. On a vu les partis traditionnels, etc., la gauche, le bloc de droite, tout ça a explosé. Et du coup, il y a des électeurs aujourd'hui qui, même s'ils ont un peu la tripe à gauche, ne se sentent pas obligés d'aller voter à gauche, et là encore, vice-versa. Il y a une libération, une agilité de l'électorat qui fait, et on le voit dans l'étude de la Fondation Jean Jaurès, qu'il n'y a plus de Front républicain pour faire barrage à Mme Le Pen. C'est effectivement un fait nouveau qui existe. Donc, et puis Macron a perdu, le en même temps macronien a perdu de sa magie de 2017.
Plus de Front républicain, dites-vous, Catherine Ney, il y avait à l'époque de 2002, Chirac-Le Pen, le cordon sanitaire dont on parlait. Celui-là
oui,
n'existe
apparemment,
plus.
Apparemment, il n'existe plus. Mais là où Marine Le Pen a bien joué, c'est qu'en 2019, 50% des opinions étaient négatives contre elle. Maintenant, il n'y en a plus que 34%. Donc, c'est quand même significatif. Lorsqu'elle a fait une émission l'autre jour avec Gérald Darmanin, pour réparer un peu le mauvais débat qu'elle avait eu avec Emmanuel Macron. Moi, je l'ai trouvée très insuffisante. C'était sur des sujets régaliens. Elle donne des leçons à tout le monde. Quand, par exemple, on lui pose la question « Mais tous ces immigrés clandestins, qu'est-ce qu'on en fait ?» Voilà. Elle dit « Ah, mais j'enverrai, quand je serai présidente, j'enverrai mon ministre des Affaires étrangères, il ira négocier avec ces pays. » Mais vous croyez qu'elle va claquer des dents, les pays vont dire, mais renvoyez-les-nous. Je veux dire que...
Gérard Darmanin l'avait traité de molle.
Oui, l'avait traité de molle et tout ça. Mais je veux dire, si c'était si facile, je veux dire, tous les présidents, tous les ministres des Affaires étrangères sont allés demander à ces pays, l'Algérie, le Maroc, enfin tous ceux qui gênaient, de les reprendre. Et ils ne veulent pas parce qu'ils disent, écoutez, ce sont des voyous, gardez-les. Donc, est-ce qu'elle sera... Mais peu importe. Moi, je pense... à ce que disait Jacques Pilan quand il parlait d'un candidat. Il disait, dans le fond, c'est l'opinion. Change d'elle-même l'opinion qu'elle peut se faire d'un candidat si elle a envie de voter pour lui. Et c'est ça qui est dangereux. C'est que tout d'un coup, l'opinion, eh bien, malgré toutes les réserves, malgré de se dire qu'elle n'a pas de talent, malgré qu'elle est plutôt plus mauvaise que ceux qui parlent pour elle et avec elle autour de les gens qu'elle a désignés comme candidats, dans les différentes, pour les régions ou autres, elle est moins bonne, mais il n'empêche, elle a une meilleure opinion. Les Français lui accordent une meilleure opinion.
Juste merci. Rappeler Jacques Pilan, conseiller aux communications du président François Mitterrand.
Absolument. Et de Jacques Chirac, également.
Et toute merci façon, les grandes voix. Michel Cotta, je suis désolé, je suis obligé de vous interrompre. On a plus que 6 minutes après pour parler de notre dernier thème du jour, la mort du président tchadien, allié précieux pour la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron s'est rendu sur place hier pour lui rendre hommage.
10h, 11h, les grandes voix d'Europe 1.